Chers amis, je vous propose ce soir d'ouvrir nos Bibles dans le livre de Daniel, où hier soir, nous lisions au chapitre 1er les versets 8 et 9. Ce soir, nous ajouterons à ces versets 8 et 9 la suite du texte jusqu'à la fin de ce chapitre 1er du livre de Daniel. Daniel chapitre 1er, versets 8 à 21. Daniel arrêta dans son cœur de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il supplia le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains, mon seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Hanania, de Michaël et d'Azaria, « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleure mine et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Dès lors, l'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions, tous les songes, au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amène. Le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar, le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Hanania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Et j'ajoute cet extrait, ce fragment de verset du chapitre 11 du même livre qui servait en partie de toile de fond à notre réflexion d'hier soir, Daniel 11, la seconde partie du verset 32, où il nous est dit, « Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. » Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et vous verrez la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. La différence, c'est-à-dire une meilleure mine, comme Daniel et ses compagnons. Nous avons évoqué hier soir ce contraste frappant, interpellant, entre deux groupes de personnages se situant à environ 170 ans d'intervalle. Je veux parler de Daniel et de ses compagnons, du peuple d'Israël du temps de Malachie. Ce contraste qui fait ressortir d'autant mieux quelle est la différence? Vivre et maintenir la différence. Et nous avons hier soir tout d'abord souligné que Daniel vit la différence par sa connaissance personnelle d'un grand Dieu. Un Dieu si grand, dont il est pourtant si proche. Daniel vit la différence ensuite sur la base de cette relation soigneusement entretenue avec ce grand Dieu si proche. Daniel vit la différence par sa résolution de sainteté. Précisément parce que Dieu est saint. Trois fois saint. Superlatif hébreu. Par excellence. D'ailleurs, seul aspect d'un caractère qui, dans les Écritures, soit justement répété à trois reprises. Comme pour souligner aussi fort, aussi haut que possible, combien Dieu est différent. Et combien son peuple est appelé à s'identifier à ce Dieu. À le connaître, à naître en quelque sorte avec lui. C'est extraordinaire. À lui ressembler dans sa différence. Quadruple dimension de différence en matière de sainteté. Nous avons évoqué les quatre roues motrices d'une vraie sainteté. Sainteté séparation, par le refus de l'impureté, sainteté du cœur, allant de l'intérieur vers l'extérieur. Et nous terminions hier soir par la troisième roue motrice, sainteté consécration, sainteté, c'est-à-dire mise à part. Pour sainteté à l'Éternel. La fin du livre de Zacharie au chapitre 14 à partir du verset 20 souligne que viendra un jour où il sera écrit sur les clochettes des chevaux en terre d'Israël, sainteté à l'Éternel. Et les chaudières dans la maison de l'Éternel seront comme les coupes devant l'autel. Toute chaudière à Jérusalem et dans Juda sera consacrée à l'Éternel des armées. Offrez vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte logique, raisonnable, conforme à ce que la raison demande, et un culte en particulier du cœur. Quatrième roue motrice qui introduit notre réflexion ce soir, sainteté radicale. Parce que Daniel prit la résolution. Daniel se détermine, il se situe clairement, il se singularise, il se démarque ouvertement et volontairement, il agit avec fermeté. Et oui, il est de ceux qui, connaissant l'Éternel, agissent avec fermeté. Pas de valses hésitations, de tergiversations sans fin. Mais une prise de position claire, sans confusion possible dès le départ. Il se refuse au flou, au compromis, à l'esprit manœuvrier, calculateur. Et il m'interpelle. Il m'interpelle parce que je vis à une époque où tout est flou. Où être intolérant n'est pas tolérable. Où l'on cultive avec une haute excellence l'art de l'ambiguïté. Nous vivons dans un monde qui aime le brouillard. Dieu dit non. Dieu dit non aux attitudes douteuses, équivoques, caméléons. Il nous invite avec force à refuser de composer avec le milieu, la tiédeur, la médiocrité. À refuser de vivre entre chien et loup, sans se démarquer vraiment. À refuser de nous installer dans une sorte de no man's land piégé. À refuser le cœur partagé. Les conduites douteuses qui font de nous des douteurs. Il nous conjure de refuser de nous tenir à la lisière du peuple de Dieu, de simplement compter au nombre des sympathisants de son peuple. Car il s'agit là de positions fort inconfortables et fort dangereuses. Je pense à cette terrible guerre de sécession lorsque les États du Sud et du Nord se livrèrent bataille durant cette guerre civile américaine qui fit couler tant de sang. Chaque camp avait un uniforme distinct et il se trouve qu'un cultivateur vivait à la frontière des deux antagonistes. Et comme il ignorait la tournure qu'allait prendre la guerre, il pensa qu'il serait éventuellement en sécurité s'il appliquait le stratagème suivant comme mesure de compromis. Il revêtit la tunique des nordistes et le pantalon des sudistes, pensant ainsi échapper au feu des uns et des autres. Et vous savez ce qu'il advint. C'est exactement, bien entendu, le contraire qui se passa, puisqu'il dut constater que son travestissement ne lui assurait pas la neutralité, mais au contraire, lui attirait les foudres des deux côtés. Il nous faut choisir clairement le camp de la vraie différence. Et c'est à quoi nous serons invités tout particulièrement ce soir. Comment maintenant Daniel procède-t-il concrètement? Eh bien, il fait une proposition à son supérieur. Et si j'essaye de transposer, de transcrire même, sa proposition dans le langage de notre temps, nous la rendrons ainsi. Regardez-nous vivre au régime de notre Dieu, ce Dieu que vous ne connaissez pas. Regardez-nous vivre à ce régime-là pendant 10 jours et vous déciderez en conséquence. Et il y a bien entendu un sous-entendu. Et vous verrez la différence. Et vous verrez la différence. Daniel va donc lancer respectueusement un défi. Il le fait avec beaucoup de tact, avec beaucoup de courtoisie. Il a une approche de son chef pleine de tact, pleine de délicatesse. Et il accepte le test de la qualité de la vie, à la fois dans sa dimension individuelle et dans sa dimension collective. Et il nous dit ce soir, mes bien-aimés, vous devez faire vos preuves. Nous devons rendre crédible notre message. Et pour cela, il nous faut accepter d'être testés quant à la réalité de notre foi. Daniel dit, mais mettez-nous à l'essai. Et il est bien évident que ces 10 jours n'ont pas été faciles. Il y a dans le texte original une petite nuance qui n'apparaît pas dans toutes nos traductions, au verset 16, où il nous est dit exactement, désormais l'intendant emportait les mets et le vin qui leur était destiné, ou encore dès lors l'intendant emportait. Qu'est-ce que cela sous-entend? Cela veut dire que le chef n'était pas tellement sûr du résultat. Il tenait à sa place, il tenait à sa vie. Et il a donc manifestement donné des ordres au cordon bleu de la cour pour qu'il se surpasse, de manière à faire craquer nos jeunes gens. Ça n'est pas allé tout seul. Pendant ces 10 jours, ces jeunes avaient, nous dirions, 1000 paires d'yeux braqués sur eux, sous le projecteur. Ils subissaient des pressions de toutes sortes. La vue des plats appétissants, bien préparés, le fumet merveilleusement odorant qui montait vers leurs narines, était difficile sans doute pour eux. Ils subissaient des pressions de toutes sortes, psychologiques, morales, sentimentales, spirituelles. J'imagine les colibés du genre, et le piétiste, le puritain, le petit Jésus, le moraliste, l'intégriste. Et mes amis, mais vous êtes trop étroits, vous n'êtes pas assez ouverts, vous êtes trop sectaires. Oh, combien vous êtes naïf, cerveau fêlé. Vous ne réalisez pas que vous risquez votre avenir pour une simple question d'alimentation. L'heure de la vérité. Oh, je pense à Jean-Baptiste, qui du fond de sa prison, dans un moment certainement extrêmement difficile, envoie vers Jésus de ses disciples pour leur poser la question qui est là, qu'il passe et repasse dans son cœur. Maître, es-tu celui qui devait venir ou devons-nous en attendre un autre? Et il est intéressant de constater que Jésus manifestement n'a pas répondu tout de suite aux émissaires de Jean-Baptiste. Il les a écoutés et il a continué son ministère à parler, à poser ses mains d'amour sur toutes sortes de situations physiques douloureuses, mais qui cachaient souvent des détresses spirituelles profondes. Et puis, sans doute, quand ces personnes, ces émissaires, ces délégués, pensait qu'il les avait oubliés, il s'est tourné vers eux et dans Luc 7, il nous est dit qu'il leur a dit ceci, « Rapportez à Jean ce que vous avez vu et entendu. » Le test de la qualité de la vie. Vu et entendu. Certains d'entre nous seraient tentés de se frotter les mains en disant, ben oui, l'essentiel, c'est d'abord de voir. Il y a manifestement des priorités ici. Si l'on voit, c'est l'essentiel. Entendre vient ensuite. Ah, il se trouve que dans le texte parallèle de Matthieu au chapitre 11, verset 4, qui évoque tout à fait la même situation, c'est l'inverse qui est raconté. Simplement parce que Jésus a développé certainement cette pensée et que l'un l'a rapporté d'une manière, l'autre de l'autre, parce que Jésus avait envisagé ces deux dimensions. Parce qu'il nous est dit, rapportez à Jean ce que vous avez entendu. Entendu. vivre la qualité de la vie. À ces deux niveaux-là. Je pense à Jésus, dans cette retraite au pied de l'Hermon, certainement, qui pose cette question à ses disciples, Matthieu 16, 13 à 17, « Qui dit-on que je suis ?» Ah, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie. Oh, certains disent que tu es Jérémie, ou l'un des prophètes. Et puis Simon-Pierre, qui intervient, « Oh, tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. » Il l'avait vu, il l'avait entendu, il l'avait côtoyé de près pendant pratiquement 3 ans. Et au bout de 3 ans, c'était là leur conclusion. Je pense à ces gardes envoyés par les pharisiens dont nous parlions hier soir pour arrêter Jésus et qui reviennent bredouilles et qui s'explique en disant, mais jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jean 7, 32, 46. Je pense à ce soldat aguerri qui en avait vu de toutes les couleurs, ce centenier qui commandait les soldats qui venaient de crucifier Jésus et qui observait et qui était bouleversé intérieurement. Cet homme au cœur dur. Et qui pourtant, quand Jésus rendit l'esprit, ne put que s'écrier, mais cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Quel témoignage sur les lèvres d'un chef romain tellement habitué à ce genre de spectacle. Oui, manifestement cet homme était le Fils de Dieu. Et nous? À quoi le monde reconnaîtra-t-il la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas? Sera-ce à nos autocollants, à nos t-shirts évangéliques, à nos badges, à tous nos artifices extérieurs, à nos slogans, à nos affiches? Oui. Oui. Je suis tout à fait d'accord. Puisque le diable s'affiche, pourquoi le disciple de Christ ne s'afficherait-il pas? Je dis oui, mais s'ils sont accompagnés de la qualité de vie qui sied à un citoyen du royaume. Il nous faut vivre à la hauteur de nos slogans. Il importe que sur les clochettes de nos chevaux figure sainteté à l'éternel. Et les clochettes de nos chevaux aujourd'hui, ce sont les klaxons de nos voitures. Il importe que sur nos chaudières d'aujourd'hui figure sainteté à l'éternel. Et les chaudières d'aujourd'hui, ce ne sont pas seulement celles du chauffage central, mais aussi les cocottes minutes et autres instruments de cuisine. Sainteté à l'éternel dans les lieux de nos travaux et de nos voyages. C'est Spurgeon qui a écrit ceci: quand j'étais à l'école, nous dessinions des choses comme des maisons, des chevaux, des arbres. Et nous avions l'habitude d'écrire le mot « maison » sous le dessin de la maison, le mot « cheval » sous le dessin du cheval, sinon certaines personnes auraient pu se tromper et prendre la maison pour un cheval. Alors, il y a des gens qui devraient porter une étiquette autour du cou pour montrer qu'ils sont chrétiens, sinon nous pourrions nous tromper et les prendre pour des pécheurs. Je pense à ces slogans nombreux, parfois fort curieux, qui ornent les pare-chocs arrière des voitures aux USA. Et certains de ces pare-chocs comportent des slogans aux thèmes religieux, comme par exemple « Dieu se porte bien » ou encore « Si vous aimez Jésus, klaxonnez ». Et c'est ainsi que quelqu'un se retrouva en voiture un feu tricolore rouge derrière, une voiture qui portait à l'arrière cette inscription « Si vous aimez Jésus, klaxonnez ». Alors, puisque cette personne était croyante, elle émit un coin-coin évangélique des plus gentils. Et mes amis, la suite est digne de figurer dans le livre des records et dans plusieurs paragraphes à la fois. Rapidité avec laquelle la fenêtre avant descendit. Rapidité avec laquelle le visage fit un demi-tour sur lui-même. Et le rictus, n'en parlons pas. Quant au propos, je voulais lire tel quel. Espèce d'idiote, vous n'êtes pas foutu de voir que le feu est rouge. Hein, mes amis? Voir la différence. Le règne de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 20. Alors ce soir, nous voulons creuser plus avant et évoquer quatre directions de qualité de vie. Vivre la différence dans quatre directions. Quatre directions présentes de manière éloquente dans le livre de Malachie. Vivre la différence dans le service de Dieu. Parce que dans Malachie, Dieu s'adresse d'abord aux responsables spirituels de la nation. Et le problème, c'est qu'alors, on ne voit plus la différence entre les responsables et le méchant. Et il nous est dit que ces serviteurs, ces responsables spirituels, ces conducteurs, ces sacrificateurs ne servent plus l'Éternel avec joie. Ils sont insatisfaits, revendicateurs, amers, se plaignant de tout et de tout le monde, y compris de Dieu, considéré comme un maître injuste. Ils n'aiment plus Dieu. Ils ne donnent plus gloire à son nom. Par contre, ils prennent des libertés avec la loi de Dieu. Ils acceptent, ils tolèrent des sacrifices au rabais. Ils tolèrent le péché, l'infidélité. Ils montrent de la partialité. Ils ont deux poids et deux mesures dans leur approche des personnes et de leurs problèmes. Ils bricolent, ils trafiquent, ils soldent. Ils altèrent les Écritures pour en atténuer le tranchant et la clarté. Oh, déjà, à l'époque d'Ézéchiel et de Daniel, Dieu parlera des conducteurs et des sacrificateurs en particulier, disant ceci, Ézéchiel 22, 26, ces sacrificateurs violent ma loi, profanent mes sanctuaires, ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane, ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur, ils détournent les yeux de mes sabbats, je suis profané au milieu d'eux. Oh, je suis convaincu qu'il y a corrélation entre ces deux constatations. D'une part, ils ne servent plus l'Éternel avec joie, d'autre part, ils prennent des libertés avec les Écritures. Mon frère, ma sœur, peut-être as-tu perdu la joie de l'Éternel. Parce que tu as pris des libertés avec Dieu. Des libertés avec sa parole. Parce que à peu, tu t'es laissé influencer par le climat ambiant dont nous allons parler un peu plus loin. Et au lieu de garder comme point de comparaison la sainteté de l'Éternel, tu as cherché des points de comparaison plus faciles. Ta vision a changé peu à peu. Et le service de Dieu est devenu une corvée. Tu es amer. Il te sera peut-être très difficile même de prendre la parole demain matin. Au fond de toi-même, tu voudrais bien faire autre chose. Tu as perdu la joie de l'Éternel. Je pense à ce moniteur de l'école du dimanche qui était tellement plein de son importance et satisfait de lui-même et qui essayait d'expliquer à sa classe l'importance de vivre dans l'obéissance à Jésus-Christ. La tête bien haute, le torse bombé, il se pavanait comme un paon d'un bord à l'autre de la salle, disant sur un ton arrogant, « Maintenant les gars, pourquoi les gens disent-ils que je suis un chrétien ?»
Et le moniteur de brandir son doigt, disant, « Oui, toi !»
Et le garçon de répondre, « Monsieur, probablement parce qu'ils ne vous connaissent pas. » Vivre la différence dans le service de Dieu, au sein de nos responsabilités. Avoir une haute idée du service que Dieu nous a confié. Servir l'Éternel avec joie. Nous tenir très très près, très très près de sa parole. Vivre la différence ensuite dans le mariage et la vie familiale. Car il nous est dit au chapitre 2 et au verset 11 en particulier, Judas s'est montré infidèle. Et une abomination a été commise en Israël et à Jérusalem, car Judas a profané le sanctuaire, ce qui est consacré à l'Éternel, ce qu'aime l'Éternel. Il s'est uni à la fille d'un dieu étranger. Dieu dénonce, ô le cœur brisé, la facilité avec laquelle son peuple, ses enfants, se marient avec des idolâtres. Et il importe ici que nous nous souvenions de ce texte fondamental de 2 Corinthiens 6, 14 à 18. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Pas d'attelage disparate. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? Qu'y a-t-il de commun ? Quelle communion y a-t-il entre la lumière et les ténèbres ? Quel accord, quelle symphonie y a-t-il entre Christ et Bélial ? Quelle part le fidèle avec l'infidèle ? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu, le sanctuaire de Dieu et les idoles ? Car nous sommes le sanctuaire du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi ? Soyez différents. Sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant, l'Éternel des armées de l'Ancien Testament, le Pantocrator, ce Dieu de l'univers Tout-Puissant que nous avons évoqué hier soir. Séparez-vous, soyez différents. Soyez différents au niveau du mariage. Le croyant authentique, le véritable disciple de Jésus-Christ ne vit pas la sexualité de la même manière que le monde. Il ne vit pas les fréquentations de l'autre sexe de la même manière que le monde. Il ne vit pas le mariage comme le monde le vit. Et nous vivons dans un monde qui nous invite en permanence au fantasme, à laisser la bride sur le cou à notre imagination pour être, paraît-il, bien dans notre peau. Qu'en tant que peuple de Dieu, hélas, de plus en plus, nous laissons courir notre imagination. Et comme nous nourrissons le monde de nos pensées de plus en plus de spectacles que le Seigneur réprouve, d'émissions de télévision qui feraient rougir
de honte le Seigneur s'il osait s'installer à côté de nous pour les regarder. Que bien entendu, nous fantasmons aussi dans le domaine de la sexualité. Et nous finissons par trouver cela complètement normal. Jusqu'à ce qu'un jour, nous nous retrouvions dans le lit de l'infidélité, dans le lit de l'adultère. Jusqu'à ce qu'un jour, ce soit le drame dans la vie de famille. Oh, je n'hésite pas à le dire ce soir en rentrant chez vous. Dieu vous invite à aller faire un tour dans votre vidéothèque. Pourquoi n'y aurait-il pas quelques vidéos X porno à quelque part? N'y aurait-il pas dans notre littérature, dans les livres de notre bibliothèque? Ce qui nous conduit précisément à ne pas vivre la différence. Est-ce que, avec le secours du Saint-Esprit, avec la grâce toute puissante et toute suffisante de Dieu, nous aurons cette dimension de sainteté radicale qui consistera à faire un tri, à jeter, à brûler, à détruire, et puis à confesser, à demander pardon, à appeler le péché par son nom? Mes amis, il ne suffit pas d'être évangélique tous les deux pour pouvoir se marier. Il ne suffit pas d'être régénéré tous les deux pour pouvoir être marié. Et vous voyez que je fais volontairement la distinction entre être évangélique et être régénéré, parce qu'il n'est pas dit que tous les évangéliques soient régénérés. Nos églises évangéliques sont de plus en plus des églises de multitudes. Quand nous avons rabaissé le niveau de l'évangile glorieux de Jésus-Christ, quand nous avons haussé la porte et élargi le chemin qui mène au salut, il ne suffit pas d'être bien assorti et complémentaire dans le domaine des affinités, de la culture, etc., pour pouvoir se marier. Il faut être consacré tous les deux au Seigneur. Tous les deux. C'est tous les deux qui doivent aimer Dieu de tout leur cœur. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Oh, littéralement, on pourrait traduire avec tes deux cœurs. De tout ton cœur. Aimer ensuite selon Dieu. Non pas simplement sentimentalement, parce que l'amour sentimental ne dure que ce que les sentiments durent. L'amour véritable siège au niveau de la volonté. Et non pas simplement serait une affaire de sentiments. Et parce que Dieu se doit de dénoncer la facilité avec laquelle les Juifs se mariaient avec le monde des ténèbres, il ajoute, il dénonce aussi la facilité avec laquelle les Juifs divorcent. Au chapitre 2 et au verset 13, il nous est dit, voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes, qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit la compagne, ta compagne et la femme de ton alliance. Prenez donc garde dans votre esprit qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse, car je hais le divorce, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit, et ne soyez pas infidèle. Comment se fait-il que les divorces se multiplient au sein de l'Église de Jésus-Christ? Si ce n'est parce que tout d'abord nous avons
tout simplement le résultat d'une fausse optique, d'une fausse conception au sujet du mariage. Le mariage est une alliance, nous dit ce texte. C'est une alliance solennelle conclue en présence de témoins. Et Dieu dit, mais je suis le premier de ces témoins. J'ai été le témoin, dit-il. Le mariage implique donc un engagement entier de la personne tout entière pour la vie tout entière. Ce texte nous dit que le mariage est un acte social, c'est un acte public. C'est une prise de position, c'est un témoignage face aux puissances célestes, face aussi au monde qui nous entoure, qui ne sait plus aujourd'hui ce qu'est le mariage. Dans un message qu'il écrivit à sa nièce à l'occasion de son mariage, le résistant Dietrich Bonhoeffer écrivait ceci, « De même que c'est la couronne et pas simplement la volonté de gouverner qui fait le roi, c'est le mariage et pas simplement votre amour réciproque qui vous unit aux yeux de Dieu et des hommes. » Autant Dieu est élevé au-dessus de l'homme, autant le caractère sacré, les droits et les promesses du mariage sont élevés au-dessus du caractère sacré des droits et de la promesse de l'amour. Ce n'est pas votre amour qui soutient votre mariage, mais à partir de maintenant, ce sera votre mariage qui soutiendra votre amour. Et ce n'est pas parce que le divorce est entré dans les mœurs et qu'il est inscrit dans les lois de nos pays occidentaux que Dieu lui donne son agrément. Je hais le divorce, dit l'Éternel, et celui qui couvre de violence son vêtement. Donc inutile de venir présenter à l'Éternel notre offrande tout en nous conduisant mal dans notre vie conjugale et familiale. Quelqu'un demandait un jour à l'évangéliste Whitfield si une certaine personne qu'il désignait était vraiment chrétienne. Et l'évangéliste de répondre, je ne sais pas, je n'ai jamais demandé à sa femme. Un homme de Dieu qui m'a beaucoup apporté, qui est auprès du Seigneur depuis les années 60, a écrit ceci, il y a peu d'obstacles plus graves au progrès de l'évangile que la conduite des chrétiens. Sans exagérer, on peut dire qu'elle est plus nuisible que toutes les objections des modernistes ou des incrédules. On a parlé des vices des vertueux. Une chrétienne qui, pour rien au monde, ne voudrait fumer ou jouer aux cartes ou participer à des amusements mondains peut être la terreur de sa famille par sa langue pointue. Un homme qui combat pour la saine doctrine peut être difficile à vivre et empoisonnera sa vie de famille au point que ses proches n'éprouvent que peu de regrets quand il quitte la scène de ce monde pour entrer, comme il en est pleinement persuadé, dans la paix du ciel et y vivre avec les saints dans l'éternité. Mais bien aimé, Dieu nous interpelle ce soir. Est-ce qu'il y a une différence entre notre vie familiale et conjugale et celle de nos voisins? Où est la place de notre Dieu dans notre vie familiale et conjugale aujourd'hui? Y a-t-il des épouses et des maris trompés qui pleurent en ce moment à cause de l'adultère, à cause de l'infidélité, à cause de toutes les déviations possibles de la sexualité qui sont en train de devenir le fait de l'Église de Jésus-Christ dans nos pays? Dieu nous interpelle. C'est là que le monde doit voir la différence. Surtout aujourd'hui, puisqu'il n'a plus de normes, parce qu'il n'a plus de maître étalon. Et puis troisièmement, vivre la différence dans la gestion des biens. Chapitre 3, verset 8, un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez? Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Le problème, c'est qu'à l'époque de Malachie, Dieu n'était plus seigneur dans la gestion des biens. Et il y avait donc des conséquences au plan économique et social, au-delà du plan spirituel. Et la libéralité s'inscrit dans le cadre plus général de cette gestion des biens que Dieu nous confie. Ce n'est pas pour rien que Martin Luther disait que trois conversions sont nécessaires, celle du cœur, celle de la pensée, celle du porte-monnaie. Nous nous rappelons ce soir que Dieu est le véritable propriétaire de nos vies et de nos biens. L'argent et l'or sont à moi, dit l'Éternel des armées, Agé 2.8. Dieu a des doubles droits sur nous, en tant que créateur et recréateur. Nous mettons d'abord en priorité une part spéciale de nos revenus, régulièrement, à part, pour lui, comme un rappel de sa seigneurie sur nos vies, et comme un acte d'amour et de reconnaissance. Ensuite, nous gérons ce qui reste et qui est encore à lui dans sa volonté. Cela veut dire que nous nous refusons au gaspillage, que nous avons le souci d'une saine économie, même si dans ce pays l'on nous encourage du matin au soir à dépenser encore, y compris ce que nous n'avons pas. Nous nous refusons donc au crédit facile et aux dettes. Nous faisons preuve d'un esprit de solidarité avec les démunis, puisqu'il est dit, n'est-ce pas, qu'à l'époque de Malachie, il était question de ceux qui retenaient le salaire du mercenaire, qui opprimaient la veuve et l'orphelin, qui faisaient tort à l'étranger, ne me craignez pas. Nous avons une régularité, une discipline en matière de libéralité. Nous avons soif d'avoir un comportement glorifiant le Seigneur dans la vie sociale et professionnelle. Parce que c'est ça, vivre la différence. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, Deutéronome 6, 5. Et j'ai été impressionné par le fait qu'une des traductions araméennes de ce texte remplace le dernier mot, c'est-à-dire de toute ta force, par l'expression « maman » qui personnifie la richesse. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton maman. C'est-à-dire avec tous tes biens. Tu l'aimeras comme ça. Et c'est comme ça que le monde verra la différence. Et enfin, quatrièmement, vivre la différence dans l'Église. Et là, je reviens très courtement sur Daniel 1 à 3, pour souligner qu'il s'agit dans ces trois premiers chapitres d'un texte, d'un test collectif de la qualité de la vie. Ils nous sont présentés comme une équipe et j'ai compté 21 fois la mention de leurs noms respectifs mis côte à côte. 3 fois 7. Une indication évidente du Saint-Esprit. Que se serait-il passé s'il y avait eu des dissensions entre eux pendant la période de test? Il est beau de constater qu'ils se présentent comme une équipe soudée, unie, qui prie ensemble, qui partage, qui ne se jalouse pas. Il faut lire ces chapitres. Cette rencontre du groupe biblique universitaire, de l'école nationale d'administration de Babylone, où ces jeunes gens prient ensemble, ces quatre mousquetaires de Dieu, tous pour un pour tous. Et puis au chapitre 3, curieusement, le meneur disparaît. Il a ouvert la marche, il a tracé le sillon. Maintenant, les autres sont placés seuls dans une situation d'épreuve, et nous les retrouvons, équipe unie, citée 13 fois ensemble, unité de maturité, unité d'approche de la souffrance, acceptation complète de l'alternative de la souffrance. Et vous savez qu'en réalité, ils sont quatre. Le quatrième devenant visible tout particulièrement dans cette fournaise, cette christophanie dans l'ancienne alliance. Et cela me rappelle ce beau texte d'1 Jean 4,12. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et son amour est parfait en nous. Le monde doit voir Dieu en constatant la qualité de nos relations les uns avec les autres. Et c'est là que nous rejoignons notre texte de Malachie 3,16. Alors ceux qui craignent l'Éternel se boudèrent l'un l'autre. N'est-ce pas? Ils se parlèrent l'un l'autre. Et l'Éternel fut attentif et l'écouta. C'est-à-dire que les vrais croyants se parlent l'un à l'autre. Ils ne parlent pas l'un contre l'autre. Ils se parlent l'un à l'autre dans un monde où l'on se parle de moins en moins. Et quand on se parle, c'est généralement pour s'invectiver. Et bien entendu, ils ne se disent pas n'importe quoi, car l'Éternel est attentif. Ils s'encouragent, ils se soutiennent, ils se reprennent, ils partagent. Éphésiens 5, 19, que votre joie déborde dans vos entretiens fraternels. Et voilà pourquoi, en allant maintenant vers notre conclusion, je dirais aussi qu'il nous faut maintenir la différence en nous parlant les uns aux autres, en évitant ce christianisme individualiste Robinson Crusoe, en apprenant à vivre une solide communion les uns avec les autres. Vous savez que le terme saint, quand il est utilisé comme un nom et non pas comme un adjectif, dans le Nouveau Testament, figure 61 fois au pluriel contre une seule fois au singulier dans Philippiens 4. Et encore ce singulier, ce qu'on pourrait appeler un singulier pluriel, puisqu'il est dit que chacun des saints, sous-entendu, chaque saint. Pas de christianisme solitaire. Maintenir la différence dans le cadre de l'Église, maintenir la différence en revenant continuellement au Seigneur. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Accepter les remontrances et les corrections d'un Dieu d'amour, être sensible à l'action du Saint-Esprit. Le drame de notre temps, c'est que nous ressemblons étrangement aux croyants du temps de Malachie. L'orgueil, l'impudence, l'esprit de contestation et de discussion, le refus de reconnaître, de plaider coupable, de changer de mentalité et de comportement, le refus de se laisser corriger et de se corriger. Ça, c'était la dominante. Et cela a valu 4 siècles de silence de l'Éternel jusqu'à la venue de Jésus-Christ, parce qu'il arrive un moment où Dieu se tait. Quand nous essayons de justifier notre péché, avec impudence plutôt que de revenir au Seigneur. Maintenir la différence en vivant continuellement dans la perspective du retour de Christ, c'est un des grands thèmes de Malachie. C'est aussi un des grands thèmes du livre de Daniel. Enfin, maintenir la différence en cultivant une intimité constante avec le Seigneur pour lui ressembler. Et ce qui me frappe chez Daniel, c'est une de ses grandes qualités, son attitude pondérée, calme, prudente, notamment dans les situations difficiles, chapitre 2, chapitre 6, dans les moments de terrible tension. Cet homme n'est pas désarçonné parce qu'il prie. C'est un principe de vie chez lui. Et pendant 70 ans, il puisera les ressources nécessaires pour rester différent dans son intimité avec Dieu, dans son amour passionné de Dieu. En conséquence, Dieu est maître de sa vie. Il est habité par la force intérieure. Le fruit de l'esprit se développe dans sa vie. Et là où l'orgueil ambitieux, la jalousie, l'envie, la colère, l'insatisfaction, le cynisme, l'esprit de revendication dévore l'être, sape la vie physique et l'équilibre nerveux, ronge l'intérieur comme la gangrène, l'humilité confiante liée à la dépendance de Dieu a de merveilleuses répercussions sur la vie physique. Voilà ce qui donne une meilleure mine. Et le jeune Daniel annonce ainsi Jésus-Christ. Le grand Dieu, pleinement Dieu, totalement Dieu. Mais aussi l'homme doux et humble de cœur. Être différent, c'est ressembler toujours plus à Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui fut le différent par excellence. Nous voulons prier. Nous nous inclinons, Père, ce soir dans ta présence. Tu sondes nos cœurs. Tu ne veux pas que nous soyons comme ces membres de ton peuple à l'époque d'Ézéchiel, qui entendaient les prophètes et qui repartait en disant « Oh, ce que c'était beau, ce qu'il a bien parlé. » Ça ressemblait à de la musique et qui ne changeait rien dans leur vie. Seigneur, ce soir simplement, tu as voulu t'adresser à nos cœurs et à nos volontés, à nos intelligences, à notre être tout entier pour nous inviter à vivre et à maintenir la différence dans des domaines bien précis. Et nous te prions ce soir les uns pour les autres, et nous voulons te prier pour nos vies conjugales, pour notre mari, pour notre épouse, pour nos enfants. Seigneur, travaille dans notre cœur à ce niveau, profondément. Nous voulons te prier, Seigneur, en tant que jeunes, en vue de notre mariage, s'il est dans ton plan, afin que tu nous gardes et qu'il y ait une véritable consécration, que nous ayons soif de vivre à un haut niveau, par ta grâce, avec le secours de ton esprit. Nous te prions, Seigneur, en tant que responsable, en tant que serviteur et servante engagée dans une ou l'autre des multiples responsabilités de ton Église. Nous te confessons que peut-être nous avons perdu la joie, que nous avons pris des libertés avec ta parole, et nous te demandons pardon. Nous te prions, Seigneur, aussi pour notre relation avec ce prolongement de nos corps que sont nos biens, qui t'appartiennent, dont nous sommes les gérants. Seigneur, tu connais notre situation, la manière dont nous gérons. Tu connais peut-être nos dettes faciles, notre gaspillage. Seigneur, tu veux changer cela. Et tu touches ce soir du doigt tel ou tel aspect pratique, notre libéralité aussi, Seigneur, parce que nous te donnons les miettes après avoir dépensé l'essentiel et nous n'en avons plus pour toi. Tu veux être Seigneur de mon portefeuille. Et puis Seigneur, nous te prions les uns pour les autres dans nos relations de frères et sœurs, dans l'Église. À cause de tel frère ou telle sœur avec laquelle je ne parle plus, je ne m'entretiens plus, je parle contre. Seigneur, interviens là aussi, donne la force pour écrire la lettre, pour donner le coup de téléphone, pour rendre la visite, pour m'approcher, pour faire le premier pas, et d'abord pour revenir à toi. Et Seigneur, c'est vrai ce soir. D'abord, avant tout, puisque tu nous le dis dans ta parole, c'est vers toi que nous voulons revenir. Avant d'aller vers les autres, vers toi. Parce que c'est toi que nous avons lésé, c'est toi que nous avons peiné, c'est ta majesté que nous avons outragée, c'est ta gloire que nous avons bafouée, c'est toi qui es le premier peiné par notre péché. Seigneur, nous te demandons pardon. Ne nous laisse pas repartir ce soir sans avoir fait cette démarche personnelle de revenir vers toi à la croix. au seul lieu de rendez-vous valable, pour pouvoir repartir libéré, renouvelé, purifié, rééquipé en ta compagnie, pour pouvoir aller plus loin. Seigneur, fais-le ce soir, agis parmi nous. Oh, nous le réclamons vraiment, de tout notre cœur. Oh, pas à cause de nous-mêmes, mais à cause de ton Fils, à cause de Jésus-Christ, c'est lui qui l'a rendu possible. Merci pour la croix du calvaire, merci pour l'ensevelissement, pour la résurrection, pour l'ascension, pour la présence à ta droite, Père, de ton Fils bien-aimé. Merci pour son ministère en ce moment, ce soir, et pour celui du Saint-Esprit dans nos vies. Nous restons dans la prière et j'aimerais, comme hier soir, pendant que nous prions, sans un seul instant nous préoccuper de droite ou de gauche,